heureux d'être ensemble pour ce dernier dimanche de l'année 2017, et c'est même le dernier jour de l'année. Heureux pour vous saluer, que vous soyez de près ou de loin, de passage en visite, parce que vous venez de la famille, soyez les bienvenus ce matin. On a aussi la joie d'accueillir Klaus Jolandt-Joust, rentré de Côte d'Ivoire, voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas, Klaus Jolandt-Joust. Missionnaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui vient passer aussi quelques moments en famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le thématique de ce matin, bien vivre le changement. Nous sommes à la fin de l'année 2017, et dans quelques heures, nous allons changer de date. Maintenant, le fait de changer de date ne va pas forcément changer grand-chose à notre quotidien, mais en tout cas, cela nous donne l'occasion de parler de changement et de bien vivre les périodes de changement. Vous savez que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été confrontés à autant de changements et de changements en même temps. Quand on pense au changement climatique, quand on pense à l'évolution de la population, conscience démographique, quand on pense à la pollution, quand on pense au drame humanitaire des personnes réfugiées, obligées de quitter leur pays pour sauver leur vie, quand on pense aux ouragans de cette année, les ouragans à répétition, on pense au drame qui s'est joué à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin cette année, on pense au terrorisme, on pense à l'évolution des mœurs dans notre société, tant de changements qui prennent place, et parfois on est un petit peu bousculé et on ne sait plus trop quoi penser. 2017 n'a pas été une année facile, mais comme on disait tout à l'heure dans notre prière, le Seigneur était avec nous. Et il sera encore avec nous dans les semaines, les mois, et s'il n'est pas encore revenu, les années à venir. Et certains changements ont été initiés par nous-mêmes, et d'autres changements, nous les subissons. Ils nous sont imposés. Certains sont subis alors que nous essayons même de composer avec d'autres, et quelquefois on se dit bien, on fait avec. On fait avec. Alors, ma question ce matin, c'est comment réagissez-vous, comment réagissons-nous face au changement? Comment les vivons-nous? On aimerait bien que les changements nous soient annoncés à l'avance. Ça nous permettrait au moins de mieux nous préparer. Pas sûr. Pas sûr. Quelqu'un dira peut-être, moi, ça serait tellement plus facile. Je ne suis pas convaincu. Parfois, les changements arrivent de manière inattendue. Et parfois, le changement, on prétend la même à l'autre. Et parfois, il faut faire face à plusieurs changements simultanément. Ça se bouscule. Il y a des changements professionnels, des changements familiaux, des changements personnels. David Porter, un missionnaire américain qui a travaillé pendant de nombreuses années en France, en voyant tout récemment, il y a quelques jours, un post sur Facebook, il me disait « Une des périodes les plus difficiles de mon ministère a été l'une des meilleures périodes pour notre famille. » Et il poursuit en disant « Dieu équilibre les moments difficiles avec des bénédictions. » Heureusement, ça se passe comme ça de temps en temps, parce que quelquefois, c'est le contraire. En 2017, le pays a connu des deuils, mais aussi des mariages, des questionnements, mais aussi des réponses, des moments de pression et des moments de percée spirituelle. Nous avons connu des peines, mais aussi des joies et des victoires. Et pour tout cela, nous voulons louer le Seigneur qui est fidèle. Les changements sont inévitables. Ça fait partie de la vie. Ils sont liés à notre condition humaine. Quelqu'un dit « Vivre, c'est changer. » Il n'y a que Dieu qui ne change pas et qui ne change jamais. il ne peut pas s'améliorer, il est déjà parfait. Mais nous, nous avons besoin d'évoluer, de grandir, de mûrir, de grandir en maturité. Jacques Chirac, qui est un ancien président de la République française, mais qui est aussi un fin observateur de la vie, écrit le jour « Le changement est la loi de la vie humaine, il ne faut pas en avoir peur. » Je crois qu'il a raison. Il y a des petits et des grands changements. Et parfois, un petit changement peut occasionner un grand problème. J'ai arrivé d'envoyer un courrier assez récemment et il y a eu dans ce courrier, avec, quand on envoie des mails, quand on envoie des courriers, quelquefois un mot peut être mal interprété, et ça a été le cas. Il m'a fallu que derrière ce mot malheureux, je fasse plusieurs réunions de suite avec des comités pour essayer d'expliquer ce que j'avais voulu dire. C'est terrible. Un mot, un petit changement peut occasionner parfois de grands problèmes. Le qui a connu de bons changements cette année, des hommes et des femmes ont été sauvés par des gens, des vies ont été transformées, des hommes et des femmes se sont engagés dans le baptême en confessant publiquement leur foi, certains ont été libérés, d'autres ont été guéris, d'autres encore se sont engagés, et pour tous ces points positifs, tous ces changements positifs avec vous, vous êtes vraiment reconnaissants. Il y a eu des encouragements, il y a eu beaucoup de consolations. Et puis il y a eu des nouveaux pas de foi, et on veut dire vraiment merci au Seigneur pour tout ce temps. Alors certains changements sont plus faciles à vivre que d'autres. Noël n'est pas si loin, Noël a été le plus grand changement de toute l'histoire de l'humanité, avec la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui dira à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Il nous a envoyé un médiateur. Et il dira à l'apôtre Paul, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors il est possible de changer de vie, il est possible de connaître Dieu, il est possible d'être en relation avec lui au travers de Jésus-Christ. Il est possible de changer. Et ce mot dans la Bible, c'est le mot métanoïa, qui veut dire aussi se convertir, qui veut dire se repentir. C'est un changement de vie, c'est un changement de pensée, c'est un changement de mentalité. Et ce matin, l'histoire de la nativité, l'histoire de la naissance de Jésus, va nous servir de support pour avoir une perspective chrétienne du changement. Joseph et Marie nous donnent quelques clés pour faire face au changement. Pas toutes les clés, mais en tout cas quelques-unes qui nous sont données ici. On va faire cette étude dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, et à partir du verset 18. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils habitaient ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est intéressant ici. La première chose que je veux relever avec vous, c'est cette parole. Face au changement, face à ce qui prend place ici dans la vie de Joseph et de Marie, l'ange dit, chapitre 1er, verset 21, n'aie pas peur. La même chose sera dit à Marie, Luc au chapitre 1, verset 30, l'ange dit à Marie, n'aie pas peur. Et ce matin, le Seigneur est au milieu de nous. Et la première chose qu'il nous dit, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des changements. N'ayez pas peur de ce qui peut Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur. Pourquoi n'ayez pas peur? Parce que le changement, ça fait peur. Ça fait peur. On a peur de l'inconnu. On perd ce qu'on perd. Le manque de stabilité peut faire peur. La peur de tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau. Regardez dans le quotidien. Vous allez dans votre magasin préféré et puis tout d'un coup, on a déplacé quelque chose qui se trouvait toujours au même endroit. Ou bien, vous avez une voiture, vous prenez tous les jours la même route, tout d'un coup, il y a une déviation. Vous êtes obligé de faire un autre trajet. Ça génère toujours un petit peu peut-être de frustration, de déception, parfois peut-être de stress, le changement fait peur. La perte du contrôle de la situation est une source de stress. Parce que la nature humaine préfère la routine. Moi, je ne suis pas pour la routine. Je crois que Dieu n'est pas pour la routine. Il veut nous sortir de notre routine, de nos habitudes confortables, pour nous exposer. Quand il veut qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort. La nature humaine préfère la routine et les habitudes confortables. On préfère ce qu'on connaît bien. Ça s'appelle le conservatisme. Vous savez ce que c'est que le conservatisme? C'est un phénomène psychologique qui est connu, qui est bien connu, hein, qui est très courant d'ailleurs, qu'on appelle aussi la résistance au changement. Alors, il s'agit d'un comportement, d'une attitude qui consiste à s'opposer au changement, une attitude de refus face au changement. Et dans les organisations, dans les entreprises, cette résistance au changement est souvent mise en avant lorsqu'un projet n'avance pas. Et cette résistance au changement est perçue comme un obstacle à la réussite. C'est une grande question, ça, dans les organisations, dans les entreprises, on traite ça avec des coachs. Ce n'est pas le sujet ce matin. En tout cas, on peut connaître une résistance au changement. Tout changement provoque des réactions de stress. Et ça, le Seigneur le sait. Et c'est la raison pour laquelle il nous adresse cette première parole. N'ayez pas peur. La deuxième chose, c'est que Joseph et Marie, face au changement, qui était quand même un changement majeur dans leur vie, du couple, eh bien, ils ont accepté ce changement. Ce qui concerne leur attitude vis-à-vis du changement. Matthieu chapitre 1, verset 24, Joseph fit ce que l'ange avait demandé. Luc chapitre 1er, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Alors l'évangile de Matthieu met en avant l'attitude de Joseph, elle parle de Joseph, et l'évangile de Luc parle de la même chose, du monde du monde, la naissance de Jésus, mais du point de vue de Moïse. Et en reliant les deux évangiles, Matthieu et Luc, on a les deux versions, et ainsi on a un tableau assez complet de ce qu'ont vécu Joseph et Marie au moment de cette annonce. Au moment où on leur dit, bien, vous allez avoir un enfant, cet enfant vient du Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur, et voilà comment les choses vont se passer. Ils n'ont pas seulement accepté, mais je crois qu'ils ont accueilli. Le verbe accueillir est plus fort que le verbe accepter. On peut parfois accepter, bon gré, malgré, bon, j'accepte. Non, là, ils ont accueilli la parole du Seigneur. Ils ont accueilli cet événement, et Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Il y a là comme une disposition, une disponibilité de sa part. Ils avaient certainement d'autres projets, certainement. Ce n'est pas ça qu'ils pensaient, mais ils ont accepté de se laisser déranger. Et la naissance de Jésus pour ce couple est un dérangement. Ils ont accepté de se laisser bousculer. Et on sent dans leur attitude une ouverture. une disposition favorable à accomplir ce que Dieu veut. Ils vont accueillir dans leur foyer le sauveur de l'humanité. Alors, derrière tout cela, comme derrière chacune de nos vies, frères et sœurs, il y a un plan de Dieu. Il y a un projet de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu le dit dans l'Ancien Testament. Quand on reprend chacun pour notre part et notre compte, c'est vrai aussi pour moi. C'est vrai personnellement, c'est vrai pour ma famille, c'est vrai sur le plan professionnel, c'est vrai sur le plan de service. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Tu dis peut-être ce matin, je pensais que je m'attendais à. Je croyais que, j'espérais que Dieu accepte. Accueille un événement qui n'était peut-être pas prévu. Une circonstance inattendue, un retard, peut-être un changement. Accueille dans ta vie. En train de se passer, en sachant que Dieu reste maître et souverain de ta vie. Il n'y a pas d'accomplissement pour chacun d'entre nous sans l'acceptation du Seigneur. Certains changements sont l'ordre de Dieu. D'autres sont permis par Dieu. On ne peut pas dire que tout ce qui arrive dans la vie, c'est toujours la volonté de Dieu. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais Dieu pardonne. Il y a des choses que Dieu n'empêche pas. C'est comme ça. Et puis il y a des choses que Dieu voudrait qui ne se réalisent pas. Et il y a des choses que Dieu ne voudrait pas et qui se réalisent. Mais même si les choses semblent être en dehors de la main de Dieu, Dieu est capable de changer le mal en bien. J'étais en Allemagne hier et j'ai fêté avec ma famille, les 90 ans de la tante Gertrude. Une tante qui s'appelle Gertrude, d'autres qui s'appellent autrement. Ce sont des tantes allemandes, parce que je suis né en Allemagne. Et nous avons fêté ces 90 ans. C'est un moment très fort, un moment très émouvant. Toutes les tantes étaient là, celles qui sont encore en vie. Et on a parlé de la famille. Et comme certains le savent, j'ai été adopté par une famille en France. Et elle m'a raconté comment elle m'avait donné une petite valise dans laquelle elle avait mis des sucreries avant de me mettre dans le train et comme elle pleurait toute seule. Ne sachant pas ce qui allait advenir de moi. Alors je les ai rassurés. Mais Dieu sait toute chose. Dieu sait toute chose. Elle pleurait parce qu'elle ne trouvait pas avec ma maman, évidemment. Elle ne trouvait pas de ressources nécessaires, sa famille était très très pauvre, et elle ne voyait pas comment m'élever. Alors elle m'a confié une famille, mis dans le train, avec la petite valise, et le sucrerie. Et aujourd'hui je suis là. Avec vous. Et en fait, les 90 ans de la tante Gertrude, c'est un moment très très fort. Très très fort. Alors évidemment, quand elles vous disent « Tu ressembles à ton papa », moi je n'ai jamais connu mon papa, mais elles l'ont connu. C'était difficile. J'ai dit « Mais Dieu sait tout. Dieu sait tout. » Les circonstances sont aussi dans sa main. Vous connaissez le texte de Romains 8, 28 ?« Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et le texte original montre bien qu'il y a comme une grande tapisserie comme des fils qui sont belles. Toutes choses concourent, c'est-à-dire toutes choses travaillent ensemble, on peut traduire comme ça, toutes choses travaillent ensemble au bien de ce qui est Dieu. Alors, quelles que soient tes circonstances ce matin, quelle que soit ta vie, quels que soient les événements qui ont pris place, Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Il sait tout, il connaît tout. Et il est le meilleur des accompagnateurs, le meilleur des amis, le meilleur des pères. Parce que j'ai découvert en lui, et c'est possible pour chacun d'entre nous, un véritable père. Il est le Père céleste. Donc il y a un plan, il y a un projet derrière tout ce qui peut nous atteindre. C'est un changement dans le monde de Dieu. D'autres, il les tient dans sa main, il pourvoit, il intervient. Comme Nous sommes célébrés. Venez dire ce matin que les changements nous transforment et nous font grandir. Les changements me rendent plus fort. Les changements me permettent de me repositionner dans ma foi, de me réorganiser dans mes priorités. Les changements augmentent mon courage, ils augmentent ma persévérance. Et si je refuse le changement, je peux m'endurcir. Je peux même être aveuglé. Mon endurcissement face au changement peut marquer un arrêt au plan de Dieu pour ma vie. Mon entêtement, ma résistance au changement, comme on le disait tout à l'heure, rater un projet de Dieu pour ma vie, le regretter. Le refus du changement, disait quelqu'un, me brûle ma joie, ma paix. Je finis par m'éteindre si je refuse de changer. Quelqu'un dit aussi, votre refus du changement, voulu par Dieu dans votre vie, vous vole votre aujourd'hui, vous vole votre hier, parce qu'on peut mettre en oubli toutes les bénédictions du passé, et vous vole votre demain. C'est fort. Moi, je voulais avec vous, frères et sœurs, accueillir le changement du Seigneur, car Dieu connaît tout. Et moi, je sais si peu. Connaissez ce texte qui dit dans Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Je reconnais que je ne comprends pas tout, que je ne sais pas tout, mais je le confie ma vie. Pourquoi est-ce que j'accueille le changement dans ma vie? Parce que je me contrôle. Et maintenant, on est dans le lâcher-prise. On lâche-prise, Seigneur, ma vie t'appartient. Mon service t'appartient. Tout t'appartient. Tout est pour toi, Seigneur. Mes finances, mon temps. En arrivant, tout ce que j'ai, Seigneur, tout t'appartient. Je me contrôle, je l'accepte. Troisième pensée, c'est que nous pouvons, et nous avons quelque part notre part et notre rôle à jouer, nous sommes acteurs du changement. Nous n'assistons pas de manière passive à ce qui se passe entre nous. Non, je deviens acteur du changement. Je participe, je collabore, je contribue. Et c'est ce que fait Joseph. Joseph agit selon la parole du Seigneur, et c'est ce que fait Marie également. Dans ce texte, Matthieu au chapitre 1er, et au verset 22, il nous a dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé, c'est donc le projet de Dieu, et à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait demandé, il prit sa femme avec lui. Il avait dit. Un autre mot pour changer, pour changement, c'est obéir. Une des définitions de l'obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Faire la volonté de quelqu'un d'autre. Peut-être que jusque-là, tu disais, ben, c'est à moi de décider, c'est moi qui prends ma vie. Oui. Mais quand j'accepte du changement dans ma vie, j'accepte que le Seigneur conduise, me parle, me dirige. C'est peut-être un changement majeur pour quelqu'un. Il n'est pas obéi, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Il agit selon la parole du Seigneur. Non seulement il obtient le changement, mais il participe activement au plan de Dieu. Quatrième pensée, c'est que le changement suscite des questionnements. Et ces questions sont là aussi, ne sont pas occultées. J'aime la Bible parce que c'est un livre vrai. Ce n'est pas un livre de contes qui commence, il était une parole. Et qui se termine en disant, les semaines, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais non, c'est un livre vrai, qui dit les choses telles qu'elles sont. Les changements suffisent du questionnement. Luc, chapitre 1er, verset 34, Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? C'est une question de femme, ça. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Ok, Marie, vous connaissez cette question. Comment tu vas faire? Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que Dieu va nous dire? Comment est-ce que Dieu va nous rétablir? Comment est-ce que Dieu va nous sortir de cette situation? Bonne nouvelle sur la terre. La réponse de Dieu est toujours la même. qui est la même pour nous aujourd'hui. Luc, chapitre 1er, verset 37, le Saint-Esprit viendra sur toi et le puissance de ton nom te couvrira de ce nom. Alors, je ne suis pas dans le simplisme et dans la simplification, mais dans la réponse dont nous avons besoin, c'est la même pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. On le sent quelquefois dans un chant, le Saint-Esprit est là, des choses de le chanter, de le dire, c'est une autre chose que de le vivre vraiment. C'est ce texte dans un carré 4 qui dit, par puissance et par force, mais par mon esprit. Ça ne sert à rien de faire des forces. Mais par contre, on a besoin du Saint-Esprit. C'est ce qu'on s'appelle l'église de Pentecôte, a bien plus forte raison. Et je pense qu'il parvient dans la présence de Dieu. Je n'aurai peut-être pas le courant aujourd'hui, mais j'aurai en tout cas l'épaisse de moi. Et la paix intérieure de sa présence, la puissance de tout puissant, la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te gardera dans ton passé. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à lâcher prise. C'est le Saint-Esprit qui va t'accompagner dans les décisions et dans les choix. Surtout lorsque tu prends des risques pour Dieu, lorsque tu t'engages pour lui, il t'accompagnera. J'ai souvent l'habitude de dire à nos jeunes, ne choisissez pas la solution de facilité. Tu as deux possibilités, choisis la plus difficile. Je vois que. Oui. Comme je cherche la volonté de Dieu, ça peut être une indication pour quelqu'un ce matin. Je cherche la volonté de Dieu. Je suis inévitablement tenté de choisir la solution de facilité. Évidemment, il ne faut pas systématiquement prendre ce qui est le plus compliqué. Mais réfléchissons. Seigneur, peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de poser cette question. Seigneur, que ferais-tu à ma place? Jésus n'a pas choisi la solution de facilité en venant dans ce monde. Et Dieu n'a pas choisi la solution de facilité en nous envoyant Jésus-Christ. Ça peut être une indication pour quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu. Questionnement, lorsque je ne comprends plus rien, lorsque je traverse un temps de questionnement, lorsque les choses deviennent difficiles et la réponse me parle dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. En 2018, nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence. On a enterré il y a quelque temps une femme dans mon village. Et cette femme, chaque fois que j'allais la voir, c'est la femme du garagiste. Chaque fois que j'allais réparer la voiture et que j'allais à sa rencontre, il y avait quelque chose, il y avait une onction sur cette femme, une présence. Je me disais, mais cette femme, elle vient, elle dégage la présence de Dieu. C'est parce que. Et lorsqu'on l'a enterré, la première chose que le curé a dit, son enterrement, cette femme, c'était une femme de prière. Tadam! Oui, d'accord. J'ai compris. Cette femme était une femme de prière. Et si nous voulons la présence de Dieu dans notre vie, il n'y a pas de secret, la prière. La prière. Peut-être que le changement dans ta vie signifie. On va peut-être prendre un peu plus de temps dans la prière, dans la présence de Dieu. On a parlé il y a quelques mois en arrière de la chaise, de la fauteuil dans lequel tu te tiens. Où est-ce que tu le mets ce matin avec ta chaise, ton fauteuil, peut-être ton canapé? Quelqu'un m'a même suggéré le lit, parce qu'elle prie dans le lit le matin. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour le lit? Mais où est-ce qu'on en est? Peut-être juste 15 minutes. Chaque jour, ça peut faire une différence. C'est un changement qui prépare d'autres changements. En 2018, chers et sœurs, nous avons besoin de sa présence pour que des obstacles deviennent des opportunités, pour que ce qui est impossible aux hommes devienne possible à Dieu. Et Dieu ne fait rien tout seul. Il cherche aussi notre participation, notre collaboration active. soit, comme on dit aujourd'hui, proactif. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Alors, on dit à Marie, rien n'est impossible. Donc, j'aime cette phrase. Rien n'est impossible. Dans sa présence, mes forces en vous renouvelées. Dans ma présence, dans sa présence, mon courage est augmenté. Dans sa présence, ma foi est fortifiée. Dans sa présence, ma vision est la vie, parce que je vois les choses telles que lui peut les voir. Cinquième pensée, c'est la dimension de la foi par rapport au changement. Luc chapitre 1, verset 45, heureuse celle qui a cru. Marie a cru et elle s'est mise à disposition du Seigneur. Marie a eu confiance dans la parole du Seigneur. Elle s'est appuyée sur ce que l'ange lui avait dit. Durant ces 9 mois de grossesse, elle en a certainement traversé des périodes difficiles. Le regard de son entourage, son accouchement n'a pas été facile, le voyage, la fatigue, pas d'hébergement convenable, etc. Imagine un peu tout le contexte de cette région. Ça n'a pas été facile, mais elle s'est accouchée. Ce matin, j'ai envie de te dire un frère, mais c'est accepter tous les changements possibles à partir du moment où ma foi est enracinée dans la fidélité de Dieu. Jérémie qui me comprend par lui, alors qu'il discute du message de Dieu pour soutenir en forme, ne comprenant pas le monde. Il dit dans les lamentations, quand je parle de tout ce qui se passe, mon cœur est chargé, fatigué, et puis à un moment donné, il parle même d'absinthe, de poison, je suis comme empoisonné. Et puis il se souvient de la fidélité de Dieu. Il dit, oh, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas la terre. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Et termine par cette dernière pensée. Marie m'a parlé. Luc chapitre 1, verset 46. C'est ce chant qu'on appelle le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Elle éclate en louange. Un peu à la manière d'un David. Au fond de son tremblement, bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit. En parlant à votre âme. Sur toute l'équipe de louange à monter sur scène de nouveau, nous devons prendre un temps de prière, un temps de louange, de reconnaissance. Je dis que je traverse une période de changement, mais mon espérance est plus que grande. Je n'ai pas vu des fleurs, mais ma promesse est plus grande. Je connais des déceptions, des frustrations, mais les destinées sont dans sa main. Je suis sans force, comme disait le roi Josaphat. Mais mes yeux, nos yeux sont sur toi. Je fais face à des vides, à des manques, à des pertes, mais il est mon consolateur. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je transforme en Jésus-Christ. Après le printemps, Dieu, la croix de l'eau,